C'est dégoûtant.
Enfin, c'est normal, hein.
Quand même si tout le monde le fait, c'est pas super beau. C'est un peu naturel, quand même. Mais c'est que ça sent mauvais. Très mauvais. C'est vrai que ça sent très, très mauvais. Surtout les miens.
Je sais pas, moi, c'est pas le sujet qu'on emploie le plus à la maison. Ouais. Ni à l'école, ni au collège, non.
Moi, je trouve pas le sujet hyper intéressant, en fait.
Bah, moi aussi. C'est plus...
Quand on mange des betteraves, c'est violet. Et quand des haricots, c'est vert. Et quand on mange du chocolat, c'est très très marron. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que ça sort d'un tout petit trou, mais c'est énorme après.
C'est bien, regardez.
Il y a des adultes qui sont matures à moitié, ils en parlent, ils en rigolent.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Essayons de démarrer cette année du bon pied. Le pied gauche. Et pour ça, rien de tel que de marcher dans une crotte. Ben oui, ça porte bonheur. D'accord, ce sujet n'est peut-être pas très distingué, mais pour les enfants, il est essentiel. Je vous propose une émission spéciale caca, même pas peur, et j'ai plein de questions. Pourquoi ce mot fait-il autant rire, les tout-petits? Pourquoi ce thème est-il omniprésent dans la littérature jeunesse? Vous connaissez peut-être la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Ce n'est qu'un exemple, il y a des crottes partout dans les livres pour enfants. Quel plaisir de piétiner un tabou, quelle joie de dire ce que les adultes thèse. Si le sujet intéresse autant les plus jeunes, c'est aussi que l'enjeu de la propreté, la fin des couches est important. Bref, qu'on le veuille ou non, il y a matière à discussion. Et je dois dire que ça me met en joie, après l'année 2020 merveilleuse que nous avons traversée, de commencer 2021 en criant avec aplomb et enthousiasme « Caca boudin !» Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Alors, il faut nous imaginer dans l'équipe de Barbatruc en train de réfléchir à cette émission, à distance, hein, bien sûr, télétravail oblige. Il a fallu qu'on se demande un jour, bon, on invite qui pour le caca? Et on a pensé à vous deux. Bonjour Vincent Malone.
Bonjour, trop sympa.
Bonjour Elisabeth Bramy.
C'est un honneur.
Vous
Merci.
Le prenez bien tous les deux?
Ah, j'ai adoré ça.
N'est-ce pas une très jolie manière de démarrer l'année, Vincent Malone?
Oui, comme une autre. En fait, c'est un peu tous les jours, c'est pas seulement au début d'année.
Tous mes vœux au passage.
Oui.
Vincent Malone, vous êtes auteur, chanteur et musicien, aussi connu sous le titre du roi des papas.
C'est pas un titre, c'est de père en fils. Quoi.
Ah, c'est le droit du sang. Quoi.
Okay, voilà, le droit du sang, c'est ça que je voulais dire. C'est
auteur
le droit du sang.
De Kiki fait caca au seuil jeunesse, dont il me faut citer la couverture. Si vous avez aimé Huit clos de Jean-Paul Sartre, vous allez adorer Kiki fait caca.
Oui,
et quel c'est talent pas... de commercial.
Et c'est surtout intéressant parce que j'ai vu arriver au salon de Montreuil, je crois, une petite fille qui m'a demandé si j'avais Huit clos.
Parce qu'elle avait bien aimé
Kiki fait caca.
Elisabeth Bramy, vous êtes psychologue et autrice de livres pour enfants, le Dico des bêtises chez Casterman, mais aussi Mon été pourri chez Mamie, édition du mercredi, Le zizi des mots, édition Talent Haut, et votre petit dernier, c'est le Mimimagier, un imagier pour les bébés, des mots à mimer avec une histoire de caca ou pas là-dedans?
Pas de caca, en tout cas pas de caca boudin dans ce bouquin-là, alors qu'il y en a dans le Dico des bêtises. J'ai même apporté le bouquin, regardez, là, on avait fait une double carrément.
Ça méritait la double page.
C'est pas grave, si vous ne voyez, personne ne voit, mais ça, c'est radiophonique. Je l'ai mis à gros mots. Voilà, je l'ai mis à gros mots.
Agé comme gros mots.
Agé comme caca gros boudin. Mots. Parce que à la page C, il y avait évidemment caca, mais il fallait redoubler d'importance cette chose qui est tout à fait capitale, comme vous le dites.
Elisabeth Bramy, commençons s'il vous plaît par le rire. Pourquoi est-il si drôle le mot caca pour les tout petits?
Vas-y, c'est toi.
Alors, ne vous battez pas, s'il vous plaît.
Le mot caca, il est drôle parce que il énerve les adultes. Si les adultes ne réagissaient pas la première fois que le mot est prononcé, je pense que les gosses, ils le diraient comme un œuf, une poule, mon Lego, etc. Mais ça fait énormément réagir les parents. Il faut savoir que quand même, dans le vocabulaire d'un enfant tout petit, caca est au premier plan. Et l'importance de la chose est au premier plan. Mais ce mot est d'abord prononcé de 0 à 3 ans par les parents et des fois de façon tout à fait jouissive. C'est-à-dire, comme vous disiez, avec enthousiasme. Mmh. Oh, le beau caca dans le pot, c'est un événement. J'ai entendu dire que certains parents étaient capables maintenant d'envoyer la photo de la couche bien cacatée à des copains pour leur montrer par WhatsApp, ou bien, et je suppose que le résultat dans le pot, la première fois, doit être éblouissante.
Donc si ça fait rire autant, c'est la faute des parents qui en font des caisses, si j'ose dire.
Absolument, oui. Mais c'est pas la
de
peine.
De ce sujet.
Le caca, le pipi, c'est le biberon, ce sont des mots-clés. Maintenant, dans le Mimi Magier, j'ai pas mis ça, parce que justement, c'est presque à l'âge d'avant les mots, c'est plutôt dans les onomatopées, il y a Burke. Alors Burke, qui est suivi par la page sur le pot.
La parole est aux enfants dans Barbatruc, c'est important. Et c'est un joli tour de France que vous proposent nos reporters tous les dimanches. Cette semaine, nous sommes à Chamonix, en Haute-Savoie, au micro de Caroline Pommès.
Alors, il y a un pain au chocolat qui dit à un croissant, « Hihihi, tu t'es vu, tu es tout tordu. » Et le croissant lui répond, « Et toi, tu t'es vu avec ton caca collé au cul. » C'est la blague préférée de mon petit frère. Non, il y a la maman de Toto qui dit à Toto, « Est-ce que tu peux aller acheter du jus de pomme et du Nutella pour le goûter ?» Il y va, il achète le pot de Nutella et le jus de pomme, sauf qu'en fait, il a très envie de manger et très envie de faire pipi et de faire caca. Il va manger tout le pot de Nutella et faire caca dedans et boire tout le jus de pomme et le remplacer par le pipi. Du coup, il arrive chez lui et après... il dit « Tiens maman, j'ai rapporté ce qu'il fallait » et après la mère elle goûte et voilà.
Ah. J'ai mes potes, ils en rigolent encore. Enfin, parce qu'ils sont un peu teubés. Oh, je sais pas, mais genre en fait, des fois on parle de sujets complètement rien à voir et puis genre d'un coup ils viennent sur ça et bah après bah, ça les fait rire. Et on comprend pas toujours mais ça les fait rire.
Après surtout, ça fait rire les autres par exemple quand quelqu'un pète. Ce qui est normal, je sais pas pourquoi, mais... Par exemple, toi, un jour, tu vas péter dans ta classe, tout le monde va rigoler, c'est normal.
Non, on rigole pas, hein.
Mature.
Si, c'est obligé, obligé.
Bah, il y a des blagues, il y a des blagues qui sont bof.
Bah, en fait, les blagues sur ça, c'est pas hyper drôle, quoi. Enfin, voilà, quoi.
C'est des très bonnes blagues, on rit.
On est tous passés par là, hein, par cette phase. On était un peu immature, on parlait juste de ça en rigolant et tout.
Ma mamie, elle me disait tout le temps, tu veux faire popo ? Puis une fois, y a une vidéo, ma mère, j'étais toute petite, vraiment, et je voulais aller skier. J'étais sur les pots et j'avais mes chaussures de ski. Et je voulais pas les enlever. Ça m'avait fait trop rire, ça.
Et voilà, on prouve d'ores et déjà que c'est un sujet qui les fait rire, mais pas tous, hein, ça dépend des âges. On sent bien que les pré-ados trouvent ça très gênant comme humour. Personnellement, Vincent Malone, je préfère la blague du croissant et du pain au chocolat que celle de Toto, mais je ne juge pas.
Oui.
Est-ce que vous diriez que c'est le sujet par lequel les enfants accèdent à l'humour ?
Ah, clairement, pour moi c'est l'anti-élévation, ce qui me plaît bien dans le caca. Moi ça me fait pas super mourir de rire le caca, j'adore les chiottes parce que c'est un endroit où on est tranquille, mais dire caca me fait pas rire, simplement, clairement, ça casse tout ce qu'on nous apprend, ça casse l'évolution, ça casse tout, voilà. Une fois qu'on a dit caca, la conversation tombe par terre. Donc pour moi, c'est plutôt une clé qui ouvre les portes, notamment en spectacle. Et le plus difficile, après, c'est de la refermer, cette porte. C'est à partir de ce moment-là, tout est ouvert. Ça veut dire, une fois qu'on a dit caca, ok, on peut tout dire, les gars. On peut se lâcher, etc. Mais je noterai, et je veux bien en discuter avec vous, qu'il y a une grosse différence. Moi, j'associe pas du tout le caca d'abord au boudin, et encore moins au pipi. Le pipi, on n'en parle pas de la même manière que le caca. Caca, ça tombe. Pipi, non. Ça fait pas le même effet.
Je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire, c'est compliqué de refermer la porte. C'est-à-dire que vous le dites une fois pour montrer que c'est bon, c'est autorisé, et ensuite les enfants en veulent encore plus et il faut savoir s'arrêter.
Les enfants, c'est la vraie responsabilité parentale en ce qui me concerne, mais étant roi, franchement...
roi des papas, voilà, je le rappelle.
Je vous conseille de prendre des notes tout de même. C'est que... comment je vais le tenir quand il va vraiment s'exciter beaucoup pour pas qu'il se fasse mal, pour pas qu'il tombe, pourquoi? Eh ben, quand on parle avec eux de caca ou d'autres choses, hein, d'un tas de trucs comme ça, eh ben, il y a un peu le même mouvement. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, on a été là, on ouvre tout, mais comment on va les ramener à un moment donné à quelque chose où tout à coup ils vont pas nous emmerder toute la soirée avec ça, etc. C'est un peu compliqué. C'est une porte qu'on ouvre et qu'il faut savoir refermer.
Elisabeth Brami?
Bah, faut rien refermer du tout.
Ah, voilà. Alors ça, c'est de la polémique, il y a du débat
non,
sur ce sujet sensible.
Écoutez, Rabelais, Antonio, tous ces gens ont mis des gros mots plein la bouche et plein les yeux des lecteurs, c'est essentiel. Disons que on passe de l'anal à l'oral, et que le passage du pot, qui fait plaisir à maman, à énerver maman et papa et la grand-mère avec caca boudin, c'est effectivement une prouesse inouïe. C'est comme d'aller dans la lune. Mmh. C'est changer de statut. Et c'est passé de l'anal à l'oral. Et l'oral, c'est un pouvoir. Et ça se passe, le caca boudin, c'est entre 3 et 5. Mmh. C'est là qu'on commence à se faire du vocabulaire de cours de récré, en plus. Et je pense que l'excitation dont tu parles, Vincent, elle est sexuelle. C'est-à-dire que tu leur fais prononcer des mots qui sont déjà devenu tabou.
Entre 3 et 5 ans, vous dites, Elisabeth, oui. Brami, la phase du caca boudin.
Oui, du slogan.
Voilà, le slogan. On le crie, on le répète et ça
oui,
fait rire.
Un cri de victoire.
Ce qui est amusant, c'est que c'est au même moment, finalement, on accède au vocabulaire, à la parole, bien et sûr. On se débarrasse des couches.
Mais on vient de se débarrasser des couches et c'est un chant de guerre, c'est un cri de guerre. Alors, l'idéal, ce serait que les parents suivent le mouvement. Or, ils sont pas toujours au rythme du gosse. Ils ont pas encore compris ce que c'est que l'effort de la propreté que leur gosse a fait. Parce que pour eux, c'est des automatismes, mais rien n'est automatique pour un enfant. Ils n'ont malheureusement pas appris une chose essentielle à l'enfant, très souvent, c'est que le caca fait partie de l'intimité de chacun. L'adulte va aux chiottes tout seul. D'ailleurs, Vincent adore y aller, moi aussi d'ailleurs, c'est une bibliothèque.
Il y a des révélations dans
c'est l'endroit
émission.
Où on est peinard. Ouais. Par contre, l'enfant, on lui colle son trône, toi tu es roi, tu connais le genre, dans le salon, parce qu'on va épater mamie, papy qui est là, et le gosse, il chie n'importe où. C'est une erreur complète. Dès que l'enfant n'a plus de couche, on lui dit, tu vas aller au water comme les grands, t'es grand, on lui met son pot là-bas. Et caca n'a pas à être synonyme de sale non plus.
Alors ça, on en reparlera également du droit à l'intimité des enfants.
Ouais.
Émission réalisée par Christophe Imbert, préparée par Mao de Butler. Anne-Laure Cochet est à la technique et c'est Jean-Baptiste Audibert qui choisit la musique.
Barbatruc, Dorothée Barba, le dimanche soir sur France Inter.
C'était les Black Pumas avec Black Cat sur France Inter. Les chats noirs portent malheur, contrairement au sujet de cette émission. Que dit-on à quelqu'un qui passe un concours? On lui dit merde, mais on lui dit rarement caca, parce que ce mot est celui des enfants. Et nous essayons aujourd'hui de comprendre tout ce que ce mot recouvre avec mes invités Vincent Malone, chanteur et auteur, Elisabeth Brami, autrice et psychologue. On va retourner tout de suite écouter les enfants de Chamonix au micro de Caroline Pommès. On leur a demandé de nous parler des livres et des chansons qui évoquent ce sujet.
J'avais un livre quand j'étais petite et c'était la famille d'éléphants là. Baba, voilà. Et en fait, il y avait un livre comme ça que j'ai retrouvé chez ma cousine. Sa dernière petite fille, c'est la première fois qu'elle va sur le pot. Et du coup, elle attend pendant toute une journée de faire caca. Et ça m'avait fait trop rire.
Comment ça s'appelle, maman, là? Le livre que je lisais quand j'étais tout petit. La fête de Billy.
La chanson que tu nous faisais écouter tous les jours, là. Je sais plus, mais il y avait une musique, genre, nous écoutait tout le temps en rapport à ça. Un truc comme ça, là.
Ah oui, qui est le caca-caca-kiko, le cucu, ça?
Oui.
Caca-boudin. Il y a un personnage, bon. Un lapin, et il se promène, je crois, et il fait gaga. Il fait son gaga boudin. En fait, c'est par exemple comme si t'en as marre, et du coup, tu boudes et tu veux pas écouter les autres.
Il y a un truc, il y a plein de petits qui disent, c'est pipi, gaga, popo, ohé, ohé, oh. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a beaucoup de petits qui disent ça, je sais pas pourquoi.
Bah nous c'était un peu la mode à l'école, enfin en maternelle. On chantait ça quand on était aux toilettes en attendant que les parents viennent nous essuyer.
Et voilà, il y en a dans Babar, mais pas seulement. La fête de Billy qui a marqué l'un de ses enfants, c'est signé Katharina Valks avec un ver de terre qui se déguise en crotte pour venir à un anniversaire. Vincent Malone, y a-t-il trop de caca dans la littérature jeunesse?
Ouais, je vais te répondre, j'en sais absolument rien. Y en a-t-il trop? Non, j'en sais rien. En tout cas, si, je peux dire un petit truc pour avoir l'air intéressant quand même, sinon je me serais déplacé pour rien, c'est que j'ai jamais vu l'intérêt d'en mettre. J'en ai jamais mis pour en mettre.
Qui fait caca, et pardon, ça c'est vous, hein.
Bah oui.
Bah arrêtez toutes les deux.
Non, sérieux, mais c'est une erreur de jeunesse.
Mais soyez fiers de ce livre, il est magnifique.
Qui
c'est un
caca.
Petit pingouin qui fait caca sur la banquise.
Qui fait caca vient du fait que, justement, on m'avait brassé pas mal avec le fait que je maniais les gros mots, les trucs comme ça. Et j'avais été voir mon éditrice du Seuil jeunesse à l'époque. Je lui ai dit, écoute, on va faire simple. Je vais lancer une série Kiki et le premier, ça sera Kiki fait caca. Comme ça, c'est simple.
Ensuite, il y a eu Kiki fait des crêpes, Kiki est toc-toc, Kiki...
Ouais. Oh, Kiki fait un tas de trucs et lui cosmonaute.
Il n'arrête pas une seconde.
Si pour écrire avec des k dedans.
Vous vous êtes, Vincent Malone, bien débarrassé de ma question, donc je vais la refiler à Elisabeth Brami. Y a-t-il trop de caca dans la littérature jeunesse?
Il y en a pas plus que dans la vie courante. Le caca, ça prend un certain temps, 5-10 minutes dans la journée, si on est constipé un peu plus. Il est normal que dans la littérature jeunesse, ça ait sa place. Et il peut y en avoir des mauvais sur le caca, et puis il y en a d'excellents, il y a des trucs très rigolos, et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien de savoir qu'on peut parler de tout, et que c'est dans les livres. Je me souviens quand j'avais sorti le dico des bébés, il y avait le mot caca et j'ai été invitée dans un CP, j'aurais jamais imaginé. Et l'institut m'a dit mais c'est une pure jouissance pour les gosses de découvrir le mot caca dans votre bouquin. Et ils lisent tout le dico.
Les enfants qui le prononcent volontiers, ce mot caca, on a parfois l'impression qu'ils font partie d'un clan, que c'est une manière de se reconnaître.
Alors vous entendez toutes ces assonances, lui il parlait de crêpes, de queue, et vous aussi vous êtes... Alors ce qui est très drôle, c'est que ce caca, il résonne quoi. Inconsciemment, le queue, il est porteur de quelque chose. D'ailleurs, à la queue leu-leu, ça donne des images. Il y a plein de cochonneries certainement en queue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais sorti mon été pourri chez mamie. D'ailleurs, il y a une jouissance à écrire pourri aussi. Il y a une jouissance aussi pour un auteur à écrire le zizi des mots comme j'ai fait. Et c'est pas le sexe des mots, c'est le zizi. Donc, tous les mots sont permis. Et le gosse qui déjà passe par sa phase... Vous avez entendu les différents âges quand même des gosses, leurs différentes façons d'aborder l'idée du caca. Il y a la blague, évidemment. Il y a faire bouffer de la merde aux adultes, c'est formidable.
La blague de Toto.
Et le pipi, oui, bien sûr, elle est classique. Elle existait de mon temps, alors c'est vieux comme la préhistoire. Et il y a ensuite la jouissance de trouver ça dans les bouquins et de le voir écrit et de l'écrire soi-même. Et d'ailleurs, le personnage que j'ai mis en scène dans Mon été pourri chez mamie, dont la grand-mère ose lui apprendre à lire juste l'été d'avant le CP, dans le dos de tout le monde, ses parents, ce qui va provoquer une tragédie, à un moment, je vous ai trouvé ça, voilà, il se met avec des lettres qu'il vient d'apprendre, avec le béaba que la grand-mère lui a inculqué, à écrire sur le frigo, caca, cucu, cracra, crotte, culotte et cocotte. C'est jouissant. Mais il faut que vous sachiez que le mot caca ne devient un gros mot que parce que les parents le désignent comme ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma petite fille que j'ai vue il y a deux jours, qui vient d'avoir 5 ans, « Pour toi, caca boudin, c'est quoi ?» Elle m'a dit « C'est un gros mot rigolo ». Voilà, la définition parfaite, c'est ça.
À quoi ça sert les gros mots, Vincent Malone ?
Se défouler, je pense, ouais, un petit peu. Voilà, point final. Alors, après, ce qui est marrant, c'est d'en inviter d'ailleurs, les inventer. Et j'avais adoré, moi, tous les trucs d'Adoc, pour ça, Capitaine Adoc, tout ce qui est invention. C'est-à-dire que dès qu'on peut mettre effectivement des caramis, trouille, crétin des Alpes, abruti, enfin, voilà, se défouler comme ça. Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est un truc, on peut faire attention parce que j'ai vu, je travaille avec beaucoup de jeunes, j'ai vu que maintenant, effectivement, cette attitude qu'on avait eue dans les années Gottlieb, un peu tout ça, de délirer, de d'en empiler un peu comme ça, espèce d'abruti, ostrogo, etc. Maintenant, si on se permet de dire la moindre chose, on est tout de suite taxé de, bon, chaque mot doit être pesé. Et c'est compliqué de peser ces mots quand on s'exprime sincèrement. Voilà, avec un peu de spontanéité.
On a entendu à l'instant un des enfants nous parler de Caca Boudin. C'est un incontournable de la littérature jeunesse signé Stéphanie Blake à l'école des loisirs. L'histoire d'un lapin très souriant avec seulement deux dents. Il s'appelle Simon et c'est une tête de pioche, disons-le. Écoutons un extrait de ce livre lu par Mélanie Faye.
Il était une fois un lapin qui ne savait dire qu'une chose. Caca Boudin. Le matin, sa maman lui disait « Debout, mon petit lapin !» Il répondait « Caca Boudin !» Le midi, son papa lui disait « Mange tes épinards, mon petit lapin !» Il répondait « Caca Boudin !» Un jour, un loup lui dit « Je peux te manger, mon petit lapin ?» Il répondit « Caca Boudin !» Alors, le loup mangea le petit lapin. Lorsque le loup rentra chez lui, sa femme lui dit « Ça va, mon chéri ?» Le loup répondit Caca Boudin. Quelques heures plus tard, le loup ne se sentait pas bien. Il appela le médecin. Le médecin dit « Faites ah !» Le loup répondit « Caca Boudin !» Alors, le médecin s'exclama « Mais vous avez mangé mon petit lapin !» Le médecin, qui n'avait peur de rien, alla chercher son petit lapin. Lorsque le papa lapin retrouva son petit, il dit « Oh, mon petit caca boudin !» Le petit lapin, fort surpris, s'exclama « Mais enfin, cher père, comment osez-vous m'appeler ainsi ? Je m'appelle Simon, vous le savez bien !»
Quelle répartie en or, ce petit lapin. Caca boudin de Stéphanie Blake. Sauriez-vous dire ce qui le rend aussi sympathique.
Le petit lapin ?
Oui.
Bon, déjà, je dis bravo à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. C'est très agréable d'entendre ça. Et ensuite, ce qui m'a plu dans le début, surtout, c'est la transmission, finalement, du caca boudin. Ça, c'est quelque chose que je peux revendiquer, effectivement. On est caca boudin, et si quelqu'un nous écoute ou participe de du plaisir qu'on a à le dire ou à faire ou à agir comme ça, et ils deviennent eux-mêmes à leur tour caca boudin, et ça c'est intéressant.
On voit bien, Elisabeth Brami, que là le mot ne désigne en rien la matière fécale.
Bien sûr, en rien. Et merde non plus. Merde n'est pas crotte. Très souvent, je dis merde, moi, dans les classes, quand je vais dans les classes, je me gêne pas, je dis des gros mots. Alors tout de suite, elle a dit un gros mot. Je dis, ok, c'est ce que j'ai dit. Alors ça, c'est très étonnant, ce qu'on entend. Bien sûr, je dis merde, mais je dis d'autres choses. Et d'autres choses qui sont prises pour des gros mots.
Comme
et
quoi? J'ai même,
eh bien, le mot culotté. Tout ce qui touche au cul et à la culotte. Et le mot culotté, je dis, un type, il était culotté. Eh bien, vous savez qu'il y a une institut qui m'a raconté qu'elle a failli se faire dégommer par une mère d'élèves.
Merde.
Qui est une merde d'élève. D'ailleurs, tout à l'heure, quand Dorothée a dit « Merveilleux », on a bien entendu ce qu'elle entendait dans sa tête.
Hein,
elle a traîné. Eh bien, cette instite a été accusée un matin par la mère du gosse. Vous avez insulté mon fils, vous dites des gros mots en classe. Mais ouais. Qu'est-ce que j'ai pu faire ?
Joliment pourtant culotté.
Pour arriver jusqu'à ça, à comprendre que finalement c'était le mot culotté.
La littérature jeunesse n'a pas l'apanage de ce sujet sulfureux. Écoutez cette archive étonnante, le poète Antonin Artaud, en 1947. C'est une œuvre enregistrée à l'époque pour la radio, mais refusée par la radiodiffusion française. Elle fut diffusée bien plus tard, pour la première fois, presque 30 ans plus tard, en 1973.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca!
Patrick, sur France Inter.
Papy!
Oui?
À l'école, il y a un garçon, il est terrible. Il sent tellement mauvais que personne ne veut jouer avec lui.
Oh, ce n'est pas très gentil. Et comment s'appelle-t-il?
On peut pas te le dire, papy!
Allons donc! Et pourquoi?
C'est trop ridicule!
Oh, mes enfants, sachez qu'on ne juge pas ainsi ses camarades. Un nom, aussi ridicule soit-il, ce n'est qu'un mot qui ne doit en rien occulter la personnalité qu'il désigne.
Bien, papy!
Oh, alors ce nom, hein?
Merde au cul!
Ça s'appelle péripopette.
Merde au cul, merde au cul, c'est un caca très spécial. M-R-D-O-C-U, c'est un copain peu banal. Mère, mère de dos et que cul, merde, merde au cul. Mon ami merde au cul.
Merde au cul, pendant la classe, respire la bouche ouverte. Ses dents sont tellement pleines de crasse qu'il avale des grosses mouches vertes. On l'envoie jamais au tableau, il fait peur à la maîtresse. Quand il enlève sa cagoule, on allume les feux de détresse. Merde au cul, pendant la gym, personne veut se mettre avec lui.
Non merci, sans façon.
Comme il change jamais de survêtre, il sent très fort le pipi.
C'est pas très agréable.
Quand il fait le poirier droit, on voit le trou de ses chaussettes. Et quand il monte à la corde à nœuds, on voit le trou de son...
Espèce de malpoli.
Merde au cul, c'est un caca très spécial. M-E-R-D-O-C-U, c'est un copain peu banal. Mère, mère de dos et cul-cul, merde, merde au cul. Mon ami merde au cul.
Merde au cul. C'est la terreur des fillettes. Il sort des grosses crottes de nez et les colle sur leurs couettes.
Ah,
merde au cul à la cantine, n'aime pas le miel d'abeille. Alors il se fait des tartines avec la cire de ses oreilles. Quand merde au cul est invité à un anniversaire, tout le monde croit que le gâteau est fait en camembert. À cache-cache, il perd tout le temps à cause de l'odeur. À la piscine, il est si sale que l'eau change de couleur.
Merde au cul, c'est un dégueulasse!
Merde au cul, c'est un caca très spécial. M-E-R-D-O-C-U, c'est un copain peu banal. Mère, mère de dos et cul-cul, merde, merde au cul. Mon ami merde au cul, merde au cul, c'est un caca très spécial.
C'était Vincent Malone, alias le roi des papas.
Une merveille.
Merde au cul, Vincent Malone, vous êtes mon invité aux côtés d'Elisabeth Bramy, psychologue et autrice, pour une émission Caca Boudin, parce que le thème est porteur dans l'imaginaire des enfants. Vincent Malone, roi des papas, est-ce qu'on vous a catalogué parfois comme chanteur scatologique?
Oui, j'ai fait plein d'émissions de télé.
C'est vexant à la longue.
Mais oui, surtout qu'en fait, d'abord, j'ai fait que deux trucs vraiment qui parlent un peu caca, c'est L'ours qui pète et qui rote.
Mm-hmm. C'est bientôt un opéra d'ailleurs, non? L'ours qui pète.
Absolument. Mm. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi, j'ai des vrais trucs à dire ici. Non, parce qu'on est un peu arrêtés tous sur scène en ce moment. Enfin, et il y a effectivement un beau projet qui est un opéra, parce que je voulais mettre des chanteurs d'opéra pour les enfants sur scène, et qui s'appelle Derber der Fürst, Und wer rühmt, ce qui veut dire l'ours qui pète et qui rote, mais c'est en allemand. Et l'idée, c'est de présenter un ours sur scène, donc il va chanter, c'est un ténor. En fait, cet ours, il a envie d'aimer, il a vraiment envie d'aimer cet ours, parce que c'est son rôle, mais dès qu'il aime, et surtout dès qu'il est aimé, et puis il pète.
Non mais vous avez vu ce que vous venez de faire là sur l'antenne de France Inter?
Je peux faire l'alphabet.
Non, ça, non.
Ok. Non. Et voilà, donc il y a une petite fille qui évidemment d'aujourd'hui, etc. Mais en fait,
c'est un mal aimé cet ours.
Oui, voilà, tout ça dans un néo-réalisme allemand, et c'est très très intéressant. Et je compte faire ça, j'espère au Théâtre du Splendide à la rentrée. Tout va bien, quoi.
À la rentrée, on croise évidemment les doigts pour le spectacle.
Je touche du bois, je touche du plastique, je touche mon masque, je touche tout, quoi.
On en revient donc à cette étiquette de chanteur scato. C'est toujours un prétexte pour raconter autre chose. C'est ce que vous dites, Vincent Malone?
Ah mais clairement. Moi, j'ai jamais. Et puis, comme le dit si bien ma voisine de plateau, c'est quand même l'autorisation par la figure parentale, par le sérieux, d'ouvrir les vannes et de se lâcher un peu à raconter d'autres choses. Et je me disais qu'en fait, le mot caca et tout ça, ça me plaisait surtout parce que c'est vraiment pour moi l'auguste de la vie, quoi, par rapport au clown blanc. C'est-à-dire que nous, on est sérieux, on est machin.
Oui,
et plus il y a du sérieux à côté du caca, plus c'est cool, quoi. Donc, quand c'est quelqu'un qui est vraiment, t'as l'air très sérieux, quand tu dis, voilà, on parlait, on discutait, tu dis caca. Et là, tout à coup, vraiment, on s'éclate.
C'est la petite goutte de poison.
C'est l'opposition de. Des fois, on peut dire caca, quoi, voilà.
Alors, tâchons de déterminer l'ampleur du tabou, en parler ou pas, être gêné ou pas, des paroles d'enfant, toujours au micro de Caroline Pommès.
Ah ouais, non, nous, avec nos potes, genre, on fait du bruit quand il y a des autres dans les toilettes. Genre, on tape des pieds ou on chante fort et faux.
Et quand il y en a qui sont en même temps dans les toilettes, et c'est un petit peu gênant parce que tu te dis, c'est bon, je peux faire tranquille. Et en fait, non, parce qu'il y en a qui arrivent. C'est un petit peu gênant.
Quand, je sais pas, t'es avec ton médecin ou tes parents, ça va. Avec d'autres personnes, par exemple, ça peut être plus gênant.
C'est la nature. Avec mes parents, quand je suis malade ou des fois, quand il y a quelque chose qui va pas dans mes caca, ça me gêne. Parfois, quand je suis malade, je parle que je vais caca liquide.
C'est pas seulement le caca, c'est tout ce qui vient du corps, le pipi, les règles et tout.
En fait, ce que tu manges et que, par exemple, les légumes et les pâtes, ça se rassemble et du coup, ça, tu fais caca.
Ça dépend parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est dégoûtant, il y a des gens qui pensent que c'est naturel ou... Enfin,
mais c'est vrai que c'est un peu naturel, mais ça sent pas du tout bon.
Si, on fait des blagues, mais j'aime pas vraiment parler à mes copains parce qu'après ils se moquent de moi. Les blagues, ça me fait pas rigoler en fait.
On parle pas souvent de ça, même à la maison.
On en parle tous les matins.
Ah bon?
Oui. Est-ce que t'es allé faire caca? Comment il était ton caca?
Moi, ça m'a fait peur un jour. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc marron? Et ma maman m'a dit que c'était du caca.
Quand mon papa va aux toilettes, il me dit, allez, va sur ton trône.
Non, mais nous, au collège, on emploie le mot chiotte.
Au petit coin, sinon.
On dit merde, on dit grosse commission aussi. Et nous aussi, des fois, on dit... par exemple, les parents, ils nous demandent si on a fait pipi ou caca. Nous, on dit on a fait le premier ou le deuxième service.
Premier service ou deuxième service? Je ne connaissais pas cette magnifique astuce langagière. Peut-être ça dépend des quartiers. Elisabeth Bramy, est-ce que vous êtes de ceux et celles qui plaident pour l'emploi des vrais mots quand on parle aux enfants? L'emploi, par exemple, du mot sel à la place du mot caca?
Ah non, c'est pas ça le vrai mot. Je crois que tous les adultes peuvent les utiliser sans se dire qu'ils sont à côté de la plaque en tant qu'éducateurs. Et qui font je ne sais quelle bévue. J'avais une belle-mère qui disait « allez uriner ». Je trouvais que ça puait. Le mot uriner, c'est urinoir, on voit très bien ce que ça donne. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gosses quand je dis merde en classe et qu'ils me disent « Oh, t'as dit un gros mot !» Je dis « Mais quoi, vous préférez crotte ?» Mais crotte, ça pue, alors que merde, ça pue pas. Parce qu'on est dans un niveau d'abstraction, de symbolisme, de voilà.
Vous faites une différence entre la grossièreté et la vulgarité ?
Bien sûr. Aller à la selle, alors pour un gosse qui est en apprentissage de langage ou qui est jusqu'à 10 ans, qui est à l'affût des mots, selle, c'est passe-moi le sel, c'est bien plus dingue de dire à un gosse va à la selle, il se demandera pourquoi il fait pas une salière. Ce qui édulcore la chose pour un adulte, et c'est pour ça que quand même les trois quarts des gens utilisent caca et pipi très longtemps, et pas seulement pour les mômes qu'ils ont, mais ensuite pour les petits-enfants et entre eux, c'est que finalement ça renvoie à l'enfance, à quelque chose d'innocent, à quelque chose de joli, à
de
une
drôle.
Sonorité de mignonne, une sonorité jolie, c'est tout. J'ai été élevée par un père qui m'a élevée, qui était d'abord un métèque qui parlait pas le français quand il est arrivé en France, ni ma mère, et qui avait une jouissance des mots particulière. Et il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas, tous les vocabulaires étaient bons, tout était bon. Et il m'a élevée, par exemple, à propos de cul, dans l'idée que tout le monde a un trou de cul.
Okay.
C'est un conseil précieux. C'est-à-dire que l'enfant sait qu'il entre chez les êtres humains, d'ailleurs tout le monde le fait, c'est ça qui est important, dans l'histoire de la taupe et tout ça, dans la petite fille qui dit « il suffit de manger pour faire caca », c'est parce que c'est du vivant, on est vivant, donc on fait caca. Arto pareil, voilà, il n'y a pas d'être sans caca. Donc on fait partie de l'humanité.
Vous évoquez la taupe, parlons-en, c'est mon livre préféré sur le sujet. La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, un titre à rallonge pour un grand classique de la littérature jeunesse. C'est un bouquin allemand sorti en 1989. Les auteurs s'appellent Werner Holzwarz et Wolf Elbruch, pardon pour la prononciation. Vous nous racontez l'histoire rapidement, Vincent Malone?
Non, je ne tiens pas à parler d'auteurs Elisabeth, qui font
les choses
mieux que moi.
Je pense que d'ailleurs Elbruch a été édité à l'époque au Seuil par Brigitte Morel. Ensuite, il y a eu d'autres gens. Ça, c'est effectivement un best-seller et je ne suis pas une conteuse et je ne vais pas vous raconter celui-là. Il y a eu effectivement toute une quantité de bouquins à cette époque-là qui était une époque irrévérencieuse où on s'est autorisé des choses. Vous ne verrez pas le mot caca chez la comtesse de Ségur. Pourtant, elle était bien culotté, mais vous le verrez dans les années 70, c'est pas pour rien que c'est post-68, et il y a tout à coup des bouquins, par exemple, je me souviens, Au Seuil, Pito Gervais, qui avait fait Prout, Crotte, et je me souviens même d'avoir entendu dans un salon du livre, c'était très très drôle, un gosse qui réclamait Crotte et Prout à sa mère, et elle passe devant mon stand, et la mère dit d'un air très sérieux, bon, je t'offre Prout, mais Crotte, c'est l'année prochaine. Et je lui ai dit, quelle constipation! C'était très drôle.
C'est joli. Alors, l'histoire de la taupe, quand même, c'est une petite taupe qui se retrouve avec un caca sur la tête. Alors, elle mène l'enquête pour savoir qui lui a fait sur la tête. Ce qui est savoureux, c'est que c'est très sonore. À chaque espèce animale qu'elle rencontre, elle lui demande si c'est elle. Et l'animal répond, non, c'est pas moi. Moi, je fais comme ça. Et ça fait des splash et des clangs, des clangs. On n'est pas loin de votre kiki qui fait caca, Vincent Malone.
Ouais, c'est mieux. Franchement, ce livre est mieux. C'est pour ça que j'en parle pas. Je suis extrêmement jaloux. Non, c'est un très bon livre parce que ça mêle l'histoire, effectivement. On se fait chier dessus, tout ça. Mais c'est aussi le lien entre le dessin, l'histoire, effectivement, les onomatopées, tout ça fonctionne extrêmement bien. Donc c'est un succès, donc je n'en parle pas.
C'est un livre scatologique, mais pas du tout grossier pour le coup. Le langage est très soigné. Oui. Une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie.
Ça n'a jamais été envisagé, en tout cas par moi, comme un livre d'une quelconque vulgarité. C'est simplement un très bon livre pour enfants, pour le coup.
Les gros mots, les insultes, voilà un sujet sur lequel les enfants sont intarissables.
Quand je fais, je sais pas, une bêtise, ou quand je renverse un verre, ou des trucs comme ça, je le dis, enfin, je dis pas punaise, je dis merde, quoi.
Quand on n'arrive pas à faire un truc, on dit souvent merde.
T'es une grosse chiasse humaine.
Merde. Mais c'est pas trop merde, le caca.
Je crois que mon premier gros mot, j'ai dû dire en CM1. J'en ai dit la ferme.
Putain de merde.
Enfin, au collège, nous, on a des mots pas très très polis, on va dire, donc quand on marche, par exemple, dans un cacatien, nous, on dit on a marché dans la merde, mais on dit pas...
Quand mes potes, ils perdent, je leur dis « Ah, t'es une grosse merde !» mais ou une petite merde, pour rigoler. En fait, nos parents sont pas au courant.
Pour moi, caca-boudin, on dit ça quand on est petit, et après on dit plus caca-boudin, genre après on dit merde.
Mais des fois, quand on est dans une mauvaise position, on est dans la merde.
Et voilà, c'est QFD. Je remercie au passage les enfants de Chamonix qui ont répondu aux questions
enfants, c'est sympa.
De Caroline Pommès.
Merci Caro.
Oui, mais tout à fait.
Elisabeth Bramy.
Mais oui, j'adore ce qu'ils disent, ces mots, mais ils disent que ce qu'on essaye de dire, nous, le passage aux merdes est une promotion.
Ah oui, voilà. Pour voir comme ça.
C'est hyper important de passer de du caca boudin qui fait rire certains, qui fait punir par les autres.
Pardon, je vous interromps. Vous avez entendu cet ado qui dit mon premier gros mot, c'était la ferme.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a le gros mot, mais il y a l'insulte. La ferme, c'est adressé à quelqu'un qui doit la boucler. Ça n'a rien à voir avec le gros mot. Mmh. Et c'est ce que j'essaye de raconter quand je vais dans les classes et qu'on commence le chantier gros mot, parce que c'est eux qui m'obligent bien à m'expliquer. C'est que n'importe quel mot de la langue française, si on met espèce de devant, espèce d'endive, espèce de... c'est la façon, la violence avec laquelle on le balance à la gueule de quelqu'un qui fait... l'insulte. C'est capital, parce que l'insulte est interdite, le gros mot ne l'est pas.
Elisabeth Bramy, vous êtes agacée, je crois, par l'habitude comprise les parents, souvent, d'utiliser le mot caca pour dire sale.
Ah ben, c'est pas que je suis agacée, c'est que c'est catastrophique, comme disent les petits.
Et pourquoi ?
C'est catastrophique. Parce que le caca, c'est comme disaient très justement les mômes, c'est quelque chose de naturel, ça fait partie de nous. Les enfants tout petits croient que c'est d'ailleurs un morceau d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des gosses qui veulent même pas chier dans le pot, parce qu'ils ont pas envie de donner ce cadeau-là, ni un morceau d'eux-mêmes. Ils vont garder ça pendant une semaine, parce que ils ont l'impression qu'ils vont en crever s'ils donnent ce petit bout-là, ou ce gros bout-là qui s'est accumulé. C'est capital, c'est caca-pital, de ne pas coller le mot sale au mot caca. Tous les parents qui disent c'est caca quand un gosse touche à la terre ou dans le jardin ou ailleurs, c'est absolument aberrant. Ça ne peut donner que des bonnes névroses obsessionnelles après, du lavage débile. Il y a même des parents qui sont tellement tarés, et je le dis parce qu'il faut être taré pour le faire, qu'ils font laver au savon de Marseille la bouche des gosses qui ont prononcé un gros mot. Ah oui. Vous le savez. Je sais que ça existe. J'en ai vu parmi les ados que j'ai suivis, etc. Des violences, des vraies violences. Moi, j'appelle ça des violences.
Mais ça crée des névroses, hein, c'est ce que vous dites, d'utiliser
c'est-à-dire
ce mot caca
à
tout bout de champ.
C'est-à-dire le rapport à la propreté, qui est complètement déconnant ensuite. Le rapport à la sexualité, parce que quand même, il va se passer des choses autour de ce corps et de la jouissance de tous les trous. Tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très important. Vous m'avez posé la question, j'ai pas terminé
j'ai
de répondre
entendu, comme
il fallait.
Okay.
Où les parents doivent dire les vrais mots,
ouais, c'est
sur le sexe.
Ah.
Donc on dit vulve.
On devrait pouvoir dire vulve à un certain, vers 6-7 ans, que le gosse sache comment s'appelle son sexe, surtout les filles, parce que, évidemment, les filles, c'est comme s'il y avait rien. Hein, c'est le rien. Alors, je pense que clitoris, c'est pas plus moche à dire que volubilis. Hein, par exemple, voilà. Je ne dis pas qu'il faut raconter des histoires d'abeilles pour la fécondation. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots tabous, mais surtout, il faut prononcer des mots pour dire les choses, pour qu'elles existent. Alors que les cacas, les pipis, ça vivra, ça survivra. De toute façon, ça a lieu d'être.
Votre regard de psy sur la propreté, se débarrasser des couches, hein, c'est une étape importante, hein, pour les enfants.
Oui.
Est-ce qu'on survalorise cette
Alors,
étape-là?
Alors, il y a eu des temps pires. Quand Dolto a commencé à être psychanalyste, on était à l'époque où on mettait encore des mômes ne sachant pas se mettre debout, même pas faire un pas, sur le pot à heure fixe tous les jours pour qu'automatiquement, à la Pavlov, il chie dans le pot. Parce que les pauvres femmes... elle lavait les couches en tissu, il n'y avait pas les couches jetables, et donc c'était un vrai calvaire, et elle voulait vite que le gosse apprenne le pot et apprenne à marcher, parce que de toute façon, il n'y avait pas de contraception, et il y avait un gosse qui se pointait déjà, soi-disant, en retour de couche, et c'était cuit. Donc, on dépêchait l'enfant de grandir. Mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'il y a un rythme pour chaque gosse, il y a des périodes, on est propre de tel âge à tel âge, les petits garçons un tout petit peu six mois décalés par rapport aux filles. Normalement, un enfant doit venir à l'école à 3 ans en étant propre, mais si ça devient une pression et une angoisse familiale, ça va pas marcher du tout. Et effectivement, il y a des mômes qui vont être extrêmement perturbés par cette nécessité d'être propre. Qu'est-ce que ça veut dire être propre par rapport à être sale, mais sale de quoi ?
On ne devrait même pas employer cette expression.
Mais pas du tout. Mais
c'est pas qu'il est propre, c'est simplement qu'il n'a plus de couches.
Mais absolument.
Les grandes personnes ne se souviennent pas bien qu'elles ont été des petites personnes.
Oui.
C'est dans l'un de vos livres, Elisabeth Bramy.
Oui.
Dans un instant, Denis Chessou, l'as-tu lu, mon petit loup ?
casque au bout du rouleau. Pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux. C'est qu'on était jaloux. Une envie de crier fort. Girl, faut faire des efforts. C'est tout, le mal est partout. J'ai fait le tour. Presque au bout du rouleau. Pas encore fou mais bientôt.
C'était Lou and the Yakuza sur France Inter avec Amigo. Nous avons parlé caca, sujet omniprésent dans la littérature jeunesse. Il y a aussi parfois des livres pour enfants qui parlent d'autre chose. Denis Chessou est là, qui surveille de près les sorties.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Bonjour à tous. Eh ben oui, l'actualité du livre pour enfants. On va ouvrir l'année avec un livre à la thématique devenue classique et positive. Les Formidables de F. Pourcel, illustré par Lucie Durbiano, Jeanne de Tillante, Frédéric Rébena, Donatien Marie. C'est chez Bayard Édition à partir de 9 ans, mais c'est pour tout le monde. 100 portraits de personnalités formidables qui ont changé le monde à leur façon. Alors on va trouver Vandana Shiva, l'abbé Pierre, Georges Sand, Charlie Chaplin, Maria Montessori.
Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui.
Gérard Philippe, le pianiste Miguel Angel Estrella.
Qui a joué de la musique pour les pauvres dans l'Argentine militaire.
On a aussi Greta Thunberg, Coluche.
C'est pas vraiment de ma faute s'il y en a qu'on faim, mais ça le deviendrait si on changeait rien.
Vous la connaissez, non ?
Robert Badinter, Pierre Rabhi, Jane Goodall, Wangari Maathai, Joséphine Baker, Olympe de Gouges.
Femme, réveille-toi, reconnais tes droits.
Condamné à mourir à 45 ans pour avoir osé un monde plus juste. Alors vous avez une à deux pages sous forme de notice documentaire, assez factuelle, sans élan littéraire, mais narration bien menée, et puis un portrait dessiné. Je dirais que c'est un peu des people de l'engagement, des forçats de l'opiniâtreté. Bon, sans oublier une pincée de Victor Hugo.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Je n'écris que d'une main, mais je combats des deux.
Mais beaucoup de noms moins connus ou du quotidien, comme Mathieu Lécher, infirmier de 30 ans en réanimation au cœur du Covid, qui sait qu'il plonge pour 14 heures de boulot sans souffler.
Si seulement cette pandémie pouvait nous permettre d'avancer vers un monde plus respectueux de la vie.
C'est Marie-Claire, au nord de l'Angleterre, qui plante des légumes et des fruits partout où c'est possible.
Et qui donnera le mouvement des incroyables comestibles d'agriculture urbaine participative.
Alors ils aident les SDF, les migrants, la nature, les animaux. Ils sont dépassés par quelque chose de plus grand qu'eux. C'est José Manuel Lago qui dirige un collège en Espagne et qui dit...
Les garçons doivent comprendre que les tâches ménagères ne sont pas un travail réservé aux filles.
Et il agit en ce sens. Donc, un livre broché quasi-spinoziste.
Enseignons les vertus plutôt que de condamner les vices.
Qui balaie le pessimisme, le découragement et le nihilisme. Et en toile de fond, citons Léon Tolstoï.
De toutes les sciences, la principale est de savoir vivre en faisant le moins de mal possible.
Les Formidables aux éditions Bayard à partir de 9 ans. Et je vous le disais, c'est vraiment pour tout le monde. La promenade de Arnaud Boutin aux éditions Sarbacane à partir de 5 ans. Alors, à votre avis, que font deux chiens et un chat en plein après-midi dans un salon ?
Chips, cracottes, éclairs et moi, on se reposait près de notre cher fauteuil quand ?
Eh bien, quand leur maître est venu chercher Cookie pour une petite promenade aux grandes dames de ses compagnons domestiques.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous ? Moi aussi, je veux sortir.
Et pour le plus grand plaisir de Cookie.
J'étais trop fier. Mon maître m'emmenait en promenade.
Sur le chemin de ce qu'il pense être le chemin du parc, des premières voix s'élèvent pour prévenir qu'il fait fausse route.
Mais c'est pas par là le parc, Nigo.
Cookie commence à s'interroger.
Soit on allait au parc par un nouveau chemin, soit mon maître avait perdu la mémoire, soit j'ai imaginé le pire.
Et le pire se produit. Cookie se rend chez le vétérinaire.
Oh non ! Au secours !
Trahison ! Lui qui pensait gambader joyeusement dans l'herbe, alors qu'il n'est pas malade, contrairement aux autres patients.
Au suivant !
Alors c'est à lui. Une batterie de tests révèle qu'il a avalé les clés de son maître, d'où l'intervention du vétérinaire.
Ils m'ont enfilé un truc ridicule pour m'empêcher de me gratter le derrière, comme ils disent.
Et en rentrant chez eux, Chips, Cracotte et Éclair se moquent de lui et de son accoutrement. Mais quand même, vous verrez, il y a une suite.
Et finalement, cette affreuse journée s'est plutôt bien terminée.
Cookie est un héros qui ne manque ni de sympathie ni de familiarité. Croqué par Arnaud Boutin, il a tout du chien attachant, enthousiaste et un peu naïf. Alors, beaucoup de dynamisme dans toutes les bulles de dialogue qui ouvrent sur le monde caché des animaux de compagnie. Mais ce que nous apprend ce grand sage aux longues oreilles, c'est qu'après les difficultés, viennent les récompenses. Donc une chose à retenir, tandis que 2021 ouvre ses portes. La promenade Arnaud Boutin aux éditions Sarbacane à partir de 5 ans. Merci à Xavier Pestuggia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou, ça se passe sur le site de France Inter pour retrouver les références des livres cités, rubrique Barbatruc, l'as-tu lu mon petit loup ? Vincent Malone, Elisabeth Bramy sont mes invités, ils ont relevé avec brio ce défi de l'émission Caca Boudin, bravo à tous les deux. Alors vous avez le droit maintenant de rester dans le thème du jour, mais vous pouvez aussi vous en éloigner parce que je vous pose à présent ma dernière question et c'est une question olfactive. Tradition dans Barbatruc, j'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Vincent Malone.
C'est vraiment très simple. Je me souviens vraiment très très bien de l'odeur des chiottes que mon père y avait été avant. Mais c'était... Mais je le dis avec respect.
On est encore sur le thème du jour.
Il est décédé depuis une vingtaine d'années maintenant. Mmh. Mais je me souviens encore de ça avec émotion. C'était une odeur un peu poivrée, assez forte, très masculine. Et j'ai été surpris, mais il y a assez récemment, quelques années à peine, je suis rentré dans mes chiottes. Et il y avait la même odeur.
Ah ouais,
et j'étais content.
Ah ouais. Je suis un peu déçu de voir que vous mettez un genre à ce genre d'odeur. C'était masculin.
Franchement, oui. Ah oui. Non, il y a aucun doute. C'était. Okay. On était très loin de. Non. C'était.
Pas plus de
c'était
détails.
Un fumeur de pipe. Donc c'est. Comment dire ça ?
Alors voilà, je pense que c'est bon. On approche de la fin de l'émission. Elisabeth Bramy, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Alors.
On était dans la même chiotte.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment, une de mes premières odeurs et qui a bercé toute mon enfance et jusqu'à mes 20 ans à peu près, c'est l'odeur de la térébenthine et de la peinture à l'huile. Parce que mon père, le fameux qui disait tout le monde a un trou de cul et qui s'appelait Emmanuel Provellère était peintre et que nous avons toujours vécu dans des endroits exigus, dans des chambres de bonne parce que c'est la dèche des artistes. Et je sais que dès le début, quand je suis née, il me donnait le biberon d'un côté, il avait le pinceau de l'autre. Et je sais très très bien que je réagis énormément à l'odeur de térébenthine. Et d'ailleurs, cet été, je me suis foutue en l'air les deux pouces parce que je me suis mise à frotter un parquet à l'ancienne là pour le récupérer. Mmh. J'ai fait des mélanges de cire, etc. Et j'étais tellement envapée par cette odeur qui est... plus qu'une petite Madeleine de Proust, parce que l'olfactif est incroyable, que je m'en foutais d'avoir mal, quoi. Et voilà, c'est un peu
son GHB, en fait, un peu.
c'est une odeur très envoûtante, à la limite de l'intoxication. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je pense que j'adorais ensuite, quand j'avais 7-8 ans, quand on s'arrêtait chez les pompes à essence, j'adorais l'odeur de l'essence de voiture aussi, de la même façon. Donc c'est la même gamme, probablement.
La térébenthine et les toilettes de papa. Joli cocktail olfactif cette semaine.
C'est la fête des pères.
Impossible de citer tous vos livres à tous les deux. Quand papa était petit, il y avait des dinosaures de Vincent Malone, illustré par André Bouchard. C'est au Seuil Jeunesse. Tout comme avant, quand il n'y avait pas école. Je recommande vivement la série des Kiki. Hein. Kiki fait des crêpes, Kiki et Toc Toc. Seuil Jeunesse également. Elisabeth Bramy, Faut pas pousser mamie et papy dans les orties, illustré par Estelle Billon-Spagnol chez Talent Haut. Tout comme Les grandes personnes ou encore J'ai mal au maths. Le Mimi Magier, 30 mots à mimer par bébé, c'est chez Casterman. Monde été pourri chez mamie, édition du mercredi. N'en jetez plus. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Très bonne soirée. À bientôt sur France
Inter.
Et merde
pour la nouvelle année.
Voilà, caca.
Merci à tous les deux. L'œil du tigre de Philippe Collin cause football après le journal de 18h. Une émission consacrée au Racing Club de Strasbourg.